Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est aujourd'hui la journée mondiale de défense du droit de grève. C'est un droit qui est reconnu juridiquement dans de nombreux pays mais qui n'est pas toujours garanti dans les faits. L'actualité sociale dans le monde fourmille d'exemples de travailleurs licenciés après une grève. On peut s'interroger sur son efficacité dans le cadre de la mondialisation alors qu'il est devenu finalement assez simple de déménager une production d'un pays à l'autre. L'actualité récente pose également question. La longue grève à la SNCF n'a rien changé à la réforme ferroviaire alors que les Gilets jaunes ont obtenu des résultats sans un arrêt de travail. Faire grève sert-il encore à quelque chose? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Bonjour Yves Verrier.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de Force Ouvrière, vice-président du comité de la liberté syndicale de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Et Michel Pigenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire du travail et des mouvements sociaux, co-auteur de l'histoire des mouvements sociaux en France de 1814 à nos jours. C'est aux éditions La Découverte. La grève permet-elle aujourd'hui d'obtenir des avancées dans une lutte sociale et syndicale, Yves Verrier?
Bien, et c'est l'objectif de la grève, c'est lorsque la négociation collective, que ce soit au niveau d'une entreprise, au niveau d'une branche, au niveau national, ne fonctionne pas. C'est-à-dire lorsque soit l'interlocuteur patronal refuse de négocier, soit il refuse d'entendre et d'écouter et de permettre le compromis. Donc, dans ces cas-là, les travailleurs, les salariés n'ont pas beaucoup de solutions autres. Et je le dis parce qu'en ce moment, on est dans une situation tendue. La grève, c'est le seul moyen que l'on a lorsqu'on est salarié, de façon pacifique, de signifier à l'employeur qu'il faut qu'on soit entendu, qu'on soit écouté. On pose le sac, on s'arrête d'une certaine manière. Mmh. Évidemment, l'objectif est de mettre en difficulté le fonctionnement de l'entreprise pour contraindre l'employeur à venir à la table de négociation et à négocier franchement, sincèrement. Ça coûte aux travailleurs, ça coûte cher.
Oui,
et en ce moment, il est vrai qu'avec les salaires qui sont pas au niveau de ce qu'on pourrait espérer, il est vrai également que dans une situation où on a un taux de chômage important, une précarité importante, quand on est par exemple en CDD, se mettre en grève, ça comporte un double risque. On perd du salaire et on risque de ne pas être renouvelé dans le contrat. Donc c'est plus compliqué, plus difficile, et les entreprises sont plus petites, l'emploi est beaucoup plus dispersé, c'est difficile de se retrouver dans un collectif pour se mettre en grève. Mais encore une fois, la grève, c'est pas un objectif en soi. La grève, c'est quand on n'a pas d'autres moyens pour se faire entendre.
Michel Pigenet, vous êtes historien, spécialiste des mouvements sociaux. Est-ce que l'utilisation de la grève, l'efficacité de la grève a changé ces dernières années?
Alors, l'efficacité de la grève, on oppose parfois grève et négociation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'histoire, la négociation a été une des premières conquêtes syndicales. C'est-à-dire le fait d'être reconnu comme interlocuteur, et de pouvoir, à partir de là, négocier des avancées, des reconnaissances. C'est une conquête syndicale, et ça a toujours été une conquête fragile. Il y a eu des hauts et des bas. Dans les années 20-30, la grève et les négociations, d'ailleurs, avaient chuté très bas, puis c'est remonté, puis c'est redescendu. Donc, si on prend la distance du temps, on se rend compte qu'il y a eu des périodes plus ou moins favorables. C'est un fait que aujourd'hui, depuis 3-4 décennies, ni les grèves ni les négociations ne semblent à l'ordre du jour.
Parce que les exemples qui viennent en tête sont des exemples de conflits longs pour des résultats incertains. J'ai pensé en préparant cette émission à la grève des femmes de chambre de l'hôtel Parc Hyatt Vendôme, Yves Verrier, c'est un palace parisien par exemple, qui a duré 87 jours, et cette grève n'a pas permis l'intégration des femmes en lutte, c'était l'objectif, hein. Elles travaillent pour un sous-traitant, mais seulement leur représentation au sein de l'établissement. Leurs jours de grève ne seront pas payés, vous en avez parlé un petit peu, on va revenir là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup?
Est-ce que ça vaut le coup? La question, elle est, ou la réponse plutôt, elle est chez les salariés qui sont concernés. Hein. C'est-à-dire que je pense que lorsqu'on en arrive à cette situation, c'est que véritablement, là, dans le cas que vous citez, c'est plus qu'un simple problème salarial. Il y a à l'évidence un problème de reconnaissance de la dignité, de la considération du travailleur. C'est des grands hôtels de luxe qui fonctionnent à des tarifs exorbitants pour le tout venant, mais avec des salaires qui sont très bas, des conditions d'emploi très précaires. Et donc là, on va, ça vaut le coup. Et je pense que la fierté, peut-être, a été celle de se faire entendre, d'exister collectivement, d'aller devant l'employeur pour dire nous, on est là, on existe et on veut être entendu. Alors, le niveau de ce qu'on a obtenu à l'arrivée, est-ce que ça vaut le coup? C'est les salariés qui en jugent de toute façon systématiquement, vous savez. Il n'y a pas de bouton sur lequel on appuie pour déclencher une grève. Une grève, elle se passe, encore une fois, c'est pas un objectif, c'est pas un plaisir, c'est une contrainte, c'est difficile. Et on la fait quand on n'a pas d'autre solution.
Autre exemple, Michel Pigenet, une grève très médiatisée et longue, celle des cheminots l'été dernier contre la réforme du rail. Elle n'a finalement pas changé grand-chose au projet du gouvernement. Est-ce que l'exécutif en France se dit que finalement, eh bien, il peut faire passer des réformes en force sans négocier et sans avoir recours à la négociation comme ça?
Par-delà le cas des cheminots, vous mettez l'accent sur le fait que les relations professionnelles, les relations industrielles sont un rapport de force. Et indéniablement, si je disais que c'était depuis 3-4 décennies, le rapport de force entre les salariés et les employeurs, et l'État qui est aussi un acteur comme employeur, mais aussi comme organisateur collectif, ce rapport de force s'est dégradé, c'est clair. Alors que on est dans une société où près 90% des actifs sont des salariés, il n'empêche la situation économique, l'éclatement du salariat ont fait que son expression collective a reculé. Et la désyndicalisation est aussi un symptôme de cela. Et il est évident que quand on regarde les statistiques, c'est là où il y a une présence syndicale que des négociations peuvent parfois se tenir. C'est là que des avantages peuvent être conquis. Quand ils n'existent pas, eh bien, quand ils n'existent pas, les questions existent, subsistent. Et les gilets jaunes sont peut-être aussi la conséquence de ce défaut de présence syndicale et d'action collective.
Yves Verrier.
J'aurais pas dit le défaut de la présence syndicale ou mais
le recul peut-être disons.
Non,
écoutez, je voulais dire absence hein pour défaut.
Oui oui, mais ce que je veux dire par là, je l'ai souvent dit ces derniers temps sur la question du mouvement des gilets jaunes parce qu'on a dit à plusieurs reprises, on m'a interrogé, est-ce que le mouvement des gilets jaunes n'est pas l'échec des syndicats? Faut pas oublier que le 9 octobre dernier, un mois à peine avant le déclenchement du mouvement des gilets jaunes, on manifestait à l'appel de plusieurs syndicats dont Force ouvrière, on était 160 000 à manifester selon les chiffres du ministère intérieur, partout en France. La question des salaires, la question des services publics. On n'a pas été écouté. Alors, vous l'avez dit, et vous interrogez là-dessus. On n'écoute pas, finalement, la grève, elle a lieu, mais le gouvernement peut poursuivre. Oui, jusqu'au moment où on se retrouve aujourd'hui dans une crise qui n'est plus simplement une crise sociale. Le mouvement des Gilets jaunes nous conduit, tout le monde le considère aujourd'hui en tout cas, à une crise qui est à la fois institutionnelle, voire même démocratique. Il aurait peut-être mieux valu qu'on se rappelle que, justement, on le disait, la grève, elle est associée au droit de la négociation collective, à la possibilité de négocier collectivement sa situation et d'obtenir des avancées sociales. Si l'on n'écoute pas l'expression syndicale, si l'on passe en force parce qu'on profite d'une situation où le rapport de force est plus difficile, parce que emploi éclaté, délocalisation possible, eh bien, le risque est qu'à un moment donné, ce qui s'exprime va sortir du champ syndical et va poser un véritable problème politique. Donc, la négociation collective, ça fait partie de ce qu'on appelle la démocratie sociale. La démocratie sociale, ça fait partie de la démocratie d'une manière plus générale. Et le droit de grève en est pleinement partie prenante. Il est reconnu dans 97 constitutions d'États membres des Nations Unies ou de l'OIT aujourd'hui.
Michel Pigenet,
vous voulez réagir? Oui, alors, négociation, mais d'abord il y a un problème d'interlocuteur. Et c'est vrai que dans l'évolution du capitalisme actuel financier, l'interlocuteur est beaucoup plus difficile à identifier et ne se situe pas dans la même continuité qu'il pouvait y avoir autrefois à l'époque du capitalisme industriel, où on avait en face de soi un patronat qui était relativement permanent et attaché à sa branche, à son industrie. Le capitalisme financier a défait cela. On a un problème d'interlocuteur, je crois. Et puis, négociation. Il semble, et là ça renvoie aussi au rapport de force, que plus souvent on est dans l'information, ce qui n'est pas de la négociation, ou au mieux dans la concertation, c'est-à-dire on a l'intention de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais de toute façon, on le fera. Et cette attitude-là, elle est aussi bien celle, en gros, du patronat, des employeurs, que du gouvernement.
Oui, on nous dit souvent, Yves Verrier, on va vous expliquer nos projets, on est gouvernement ou patronat, mais les salariés, en général, ils ont bien compris, non ?
En général, ils ont bien compris, ils sont pas dupes. Encore une fois, la difficulté, elle est la capacité, dans un contexte difficile pour les salariés, je le redis, les salaires sont pas au niveau, la précarité est là, les employeurs, dans certaines situations, peuvent jouer aisément sur la concurrence, le risque de devoir délocaliser ou de cesser telle ou telle activité. Et dans un contexte de chômage important, se mettre en grève, c'est un véritable risque pour les salariés. Donc les employeurs, les pouvoirs publics jouent de cela. Et jouant de cela, ils n'écoutent pas, ils avancent, ils consultent, ils informent, mais ils avancent. Mais ça ne dure qu'un temps. À un moment donné, il y a un vrai problème. Je vais vous dire, il y a un paradoxe. Le rapport de force, aujourd'hui, vous parliez de la journée mondiale pour défendre le droit de grève,
c'est
à l'initiative de la Confédération syndicale internationale. Parce que aujourd'hui, on est confronté à une crise au sein de l'Organisation internationale du travail. Vous m'en parliez. Je suis membre du comité de la liberté syndicale qui porte justement sur l'existence du droit de grève que les employeurs au niveau de l'OIT contestent aujourd'hui comme lié à la liberté syndicale et au droit de négociation collective. C'est un peu paradoxal. Si la grève n'était pas efficace, si la grève, finalement, ne donnait pas de résultats, les employeurs ne nous enquiquineraient pas sur le droit de grève.
Au plan international, je sais que vous êtes spécialiste du mouvement social en France, puis Michel Pigenet, mais le droit de grève, il est en recul. Yves Verrier parlait de 97 constitutions qui le reconnaissent. Il en recule, il est en progression,
Il est en difficulté partout, et précisément même au sein de l'OIT, où il y a actuellement une remise en question de l'interprétation qui prévalait jusqu'à présent de la convention dite 87 qui reconnaît les libertés syndicales. Et pour une partie, pour le patronat et pour une partie des gouvernements, le droit de grève ne fait pas partie de ces libertés syndicales. Mais ça vaut aussi pour l'Europe, Ça vaut aussi pour l'Europe, puisque la Cour de justice européenne, dans deux arrêts célèbres, a considéré, de 2006 ou 2007, a considéré que, certes, il y avait un droit de grève, mais que ce droit de grève devait être proportionné à l'importance des questions qui étaient en jeu et qu'il était par conséquent en équilibre avec le droit de la libre entreprise qui est fondateur du traité des traités européens.
Je rebondis sur les atteintes plus ou moins effectives au droit de grève en Europe. Est-ce que vous, Yves Verrier, vous considérez que le service minimum qui a été mis en place par le gouvernement de Nicolas Sarkozy est une atteinte au droit de grève, en tout cas à son efficacité ?
C'est une restriction de l'exercice du droit de grève. C'est très compliqué aujourd'hui dans le secteur des transports, par exemple, de réussir à ce qu'une grève soit effective. Il y a des contraintes en termes de préavis, de durée de préavis, telles d'obligation de déclaration des salariés qui exercent une pression sur le salarié individuellement, qui font que c'est vrai qu'il est plus difficile aujourd'hui de réussir à convaincre et à faire en sorte qu'une majorité de salariés puissent se mettre en grève. Parce que la grève, elle fonctionne quand finalement on bloque le fonctionnement de l'économie. Ça fait peur, c'est quelque chose un peu repoussoir, péjoratif. On bloque l'économie, soit de l'entreprise, soit du secteur et d'activité concerné. Mais c'est bien l'objectif. Et encore une fois, c'est un objectif pacifique. Et il faut savoir il faut toujours avoir en tête que ça coûte cher au salarié qui lui n'a rien en contrepartie, et que quand on en arrive là, c'est que effectivement on n'a pas été entendu et que on n'est pas considéré, on n'est pas reconnu. C'est un droit fondamental, la négociation collective, le droit de s'associer en syndicat pour faire valoir ses intérêts en tant que salarié, c'est un droit fondamental.
Michel Pigenet, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, le non-paiement effectif des jours de grève, parce que on a beaucoup dit que ça avait été arrêté par Jean-Pierre Raffarin, mais bon, en fait, les jours de grève n'étaient pas payés avant, on négociait peut-être davantage à la fin des conflits le paiement des jours de grève. Est-ce que c'est ce qui a fait le plus mal à l'efficacité de la grève en France ces dernières années?
Non, ce qui a fait le plus mal, c'est le contexte social et économique qui fait que le poids du salariat et son action collective sont moins efficaces. Ce qui a fait le succès de la grève pendant une période, c'est qu'on obtenait des résultats. 36, ce qui s'est passé en 36 a été, certes, le fait d'élections qui avaient eu lieu auparavant, mais d'abord de la mobilisation de centaines de milliers de grévistes. Même chose en 1968, dans un contexte politique qui n'était pas celui de 36. Donc, la grève, pendant toute une période, a été un moyen de concrétiser le rapport de force et d'obtenir des acquis. Le fait est que depuis 30, 40 ans, peut-être Monsieur Verrier pourra me contredire, mais il serait difficile d'énumérer des acquis sensibles obtenus par les salariés. Ils ont souvent dû céder des acquis d'autrefois, mais des conquêtes véritables, pas vraiment.
Yves Verrier, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Oui, là, je dois reconnaître que depuis, ça fait 30-35 ans que je suis engagé syndicalement, et c'est vrai que le souvenir de mon engagement syndical, c'est plutôt de tenter de préserver ce qui a été obtenu dans le passé. En novembre-décembre 95, on a eu une situation de grève un peu généralisée, de blocage en tout cas sur une partie du pays. Bon, on a obtenu un certain nombre d'avancées, mais sur le terrain plutôt catégoriel, on a réussi à négocier pour sortir de ce mouvement-là un certain nombre d'avancées salariales, de conditions de travail dans un certain nombre de secteurs, de conditions de départ en retraite, etc. Mais les grandes avancées, c'est vrai que c'est beaucoup plus ancien. A contrario, nous avons des conflits. Le conflit idéal, si vous voulez, c'est un peu comme l'arme de dissuasion nucléaire. C'est quand, dans l'entreprise, l'employeur sait que le syndicat est très bien implanté. Ça, c'est la condition première.
Est-ce que vous êtes en train de parler de la culture syndicale allemande, là ?
Non, je vous parle de la culture syndicale française. Quand et au quotidien, moi j'ai des retours de situations dans les entreprises, notamment sur les questions de salaire. Quand le syndicat est bien implanté, il n'y a pas besoin d'agiter beaucoup la menace d'un conflit, voire d'une grève, pour que l'employeur se mette à la table de la négociation. Et on négocie en général intelligemment, les syndicats sont pas fous. Et lorsque ça ne se passe pas, il arrive, peut-être pas tous les jours, mais assez régulièrement, qu'on m'informe qu'une grève a eu lieu dans telle ou telle entreprise, et qu'au final, la négociation s'est déroulée et on a réussi à trouver un accord sur les salaires. Donc, ce n'est pas des grandes avancées nationales, c'est vrai, mais ça reste dans les entreprises qui ont une taille suffisante quand même. Encore une fois, la difficulté, c'est que le salariat est éclaté aujourd'hui avec les processus de sous-traitance, d'externalisation, d'individualisation, qui fait que le collectif est plus difficile à réaliser. On se met pas en grève tout seul, c'est très compliqué. Il faut être un collectif dans l'entreprise, dans le secteur d'activité pour y arriver.
Merci beaucoup Yves Verrier et merci à vous Michel Pigenet d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Léo Gâteau à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Valentin Vanner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Participez également au débat du jour sur les réseaux sociaux, dans le respect. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous. Bonjour.